Un journal présenté ce soir par Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Condamné et incarcéré pour le meurtre de son mari violent, puis gracié par François Hollande en 2016, Jacqueline Sauvage est décédée à l'âge de 72 ans. Une affaire qui avait fortement ému l'opinion publique, nous rappellera Antoine Marette.
Le chômage partiel prolongé jusqu'en décembre pour aider le secteur du tourisme dans la tourmente de la crise du coronavirus. Une bonne chose pour les professionnels qui continuent malgré tout à craindre la faillite en septembre.
Grande manœuvre en Allemagne, le Pentagone y retire près de 12 000 militaires. Ils seront repositionnés en Belgique, en Italie et même à l'Est. Décryptage avec Bertrand Galichet.
Deux ministres allemands sous le feu des questions des députés. Ils sont sommés de s'expliquer sur le scandale Wirecard, la star de la finance allemande qui a mis la clé sous la porte après avoir surgonflé ses comptes. La mort de Jacqueline Sauvage, elle était devenue un symbole des violences conjugales.
Condamnée en 2014 pour avoir tué 2 ans plus tôt son mari violent de 3 coups de fusil de chasse dans le dos, elle avait été graciée en 2016 par François Hollande après une vaste mobilisation en sa faveur. Jacqueline Sauvage est décédée le 23 juillet à son domicile de la Selle sur le Biais dans le Loiret, la commune où s'était noué le drame conjugal. Elle était âgée de 72 ans. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Cette affaire avait fortement ému, on s'en souvient, l'opinion publique.
L'opinion publique qui a alors bien du mal à comprendre les 2 jugements en première instance, comme on appelle, 10 ans de prison ferme pour cette femme qui affirme avoir été victime de violences conjugales pendant 47 ans. 10 ans de prison alors que son mari aurait abusé sexuellement de ses filles. Jacqueline Sauvage qui a plaidé la légitime défense sans succès, car la légitime défense implique une réponse proportionnée et simultanée à l'agression. Or, Jacqueline Sauvage a tué son mari de 3 balles dans le dos. La préméditation, en revanche, n'a pas été retenue. Entre les 2 procès, la médiatisation s'intensifie. Une pétition de soutien est lancée par un membre de l'association Oser le Féminisme. Un comité de soutien voit le jour. Il compte parmi les membres la comédienne Eva Darlan, l'actrice Annie Dupéret, l'humoriste Guy Bedos et les personnalités politiques Anne Hidalgo, Daniel Cohn-Bendit ou encore Jean-Luc Mélenchon. En 2016, le président François Hollande accorde une grâce partielle à Jacqueline Sauvage, lui permettant de présenter immédiatement une demande de libération conditionnelle, qui est refusée. Un an plus tard, elle obtient la grâce présidentielle totale. Son incarcération prend fin. Elle aura passé 4 ans derrière les barreaux. Elle raconte ensuite son histoire dans un livre qui est ensuite adapté dans un téléfilm. Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi qui réunit sur TF1 près de 8 millions de téléspectateurs. Une diffusion qui inspire une tribune à l'avocat général, Frédéric Chevalier, y dénonce une vérité du peuple virtuel au détriment de la vérité judiciaire. Il ajoute en s'adressant directement à Jacqueline Sauvage, lutter contre les violences faites aux femmes ne peut passer par la violence criminelle dont vous vous êtes rendu coupable.
Antoine Marette, l'ancien président François Hollande a réagi à la mort de Jacqueline Sauvage au micro de France Bleu. Elle est morte chez elle et non pas en prison, là où elle n'avait plus sa place. Officiellement, il s'agit, selon la préfecture de police de Paris, de prévenir les risques liés à l'épidémie de Covid-19. Un vaste camp de migrants a été démantelé ce matin au bord du canal de Saint-Denis à Aubervilliers. Près de 1500 personnes ont été envoyées dans des centres d'hébergement et des gymnases disséminés en région parisienne. Médecins du Monde s'attend à les retrouver à la rue d'ici peu, car selon l'ONG, 70% de ces personnes évacuées ce matin ont déjà vécu une évacuation.
Après les propositions, les 150 de la Convention citoyenne sur le climat entrent dans le vif du sujet. Une délégation a rencontré cet après-midi au ministère de la Transition écologique ceux qui auront à les mettre en œuvre dans les mois qui viennent.
Ces réunions de travail sont amenées à se poursuivre avec partenaires sociaux, représentants de collectivités, élus locaux ou parlementaires. Véronique Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez assisté cet après-midi à cette toute première réunion.
Qui n'est pas terminée, mais tout le monde, en tout cas autour de la table, avait lu les 600 pages détaillant les propositions des 150 citoyens, accueil globalement favorable pour les syndicats. Beaucoup de oui mais côté patronat, des réserves par exemple sur la relance du fret ferroviaire. Patrick Richard, délégué général du MEDEF.
On a un adhérent qui est dans le traitement de déchets, qui transportait il y a quelques années 10 millions de tonnes de déchets par le fret ferroviaire, qui ne transporte plus un seul kilo par le fret ferroviaire, mais donc par camion. Pourquoi ? Parce que la qualité de service n'est pas au rendez-vous.
Voilà, il faudra donc améliorer tout ça. Des réserves sur le fret ou sur la publicité, par exemple, à interdire, qui n'étonne pas vraiment Grégoire Fratti, c'est un des coprésidents de l'association des 150. Mais plutôt que les problèmes, eh bien, il faut voir, dit-il, les solutions.
Le MEDEF a défendu les intérêts du MEDEF. Nous, on parle beaucoup de justice sociale également. On a conscience de tous les emplois qu'on détruit. Mais justement, si on prend les 146 propositions, voire les 149, donc comme un package global, on donne les mesures d'accompagnement. D'ici à telle page, il y a le fret ferroviaire. On en parle, on a des propositions concrètes pour le relancer. Donc voilà, on est là pour ça, pour défendre.
Voilà, ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Pour lui, bien, la bataille à mener est clairement l'artificialisation des sols. Mais là aussi, prudent, ce ne sont pas les centres commerciaux ou les entrepôts Amazon qu'il faut montrer du doigt, mais le pavillon individuel qui pousse tels des champignons en France.
Je vois bien dans mon département comment autour des petites communes se sont développés des lotissements, des maisons individuelles, et chacun peut respecter le souhait des Français d'avoir leur maison individuelle. Il faut qu'on se pose tous la question, est-ce que ce modèle est soutenable sur le long terme ? Parce que ça représente la moitié de l'artificialisation des sols. Donc c'est une question qu'il va falloir regarder en face, tous ensemble, pour trouver des solutions qui soient les meilleures possibles.
Voilà, il va falloir encore discuter. Beaucoup d'autres réunions, vous l'avez dit, sont à prévoir.
Merci Véronique Robérotte. La France n'est pas entrée dans une deuxième vague du coronavirus, mais se trouve dans une poursuite de l'épidémie. Déclaration du ministre de la Santé, Olivier Véran. Il appelle à ne pas relâcher l'effort au cœur de l'été. Poursuite d'une épidémie à plus ou moins bas bruit, a-t-il expliqué, en fonction des pays et villes concernées.
Face à la crise qui touche en particulier le secteur du tourisme, le gouvernement annonce le prolongement du dispositif de chômage partiel.
Un dispositif mis en place pendant le confinement, parmi d'autres mesures d'aide aux professionnels de l'hôtellerie, de la restauration ou encore du voyage. 18 milliards d'euros débloqués pour des prêts garantis par l'État, des exonérations sociales, des reports d'impôts ou du chômage partiel. Il vient donc d'être prolongé jusqu'en décembre. Une bonne chose pour Thierry Grégoire de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, mais qui n'empêchera pas les professionnels de risquer la faillite dès la rentrée de septembre.
Sauvegarder les emplois par le maintien d'activités partielles, c'est fondamental. Probablement, il faudra l'étendre jusqu'à fin mars 2021 pour faire le lien avec notamment les 400 000 salariés saisonniers qui aujourd'hui, pour moins de la moitié d'entre eux, sont sans contrat de travail. Mais aujourd'hui, vous avez une équation qui, pour l'instant, n'a pas été mise sur la table et qui va probablement accélérer la faillite d'entreprises au troisième trimestre à hauteur de 20%, c'est de traiter le sujet des bailleurs. Le traitement des loyers du deuxième, troisième, quatrième trimestre, que beaucoup de mes collègues n'ont pas payé leur loyer. D'autres ont utilisé leurs prêts garantis par l'État pour payer des loyers. L'activité a été suspendue pendant 3 mois de confinement. C'est l'État qui a suspendu pour des raisons tout à fait légitimes sanitaires. Le bailleur, pour lui, ça n'a rien changé. Et il est en train d'exiger aujourd'hui ses loyers à raison parce que aucune disposition n'a été faite qui encadre la relation entre le bailleur et les chefs d'entreprise. Donc nous, ce que nous revendiquons à l'UMI, c'est que rapidement, on se mette autour de la table pour voir comment on solutionne, notamment par des franchises, des réductions de loyers, des exonérations, peut-être un avantage fiscal pour les bailleurs, parce que si on ne traite pas ce sujet-là, ça c'est une bombe à retardement qui risque de faire exploser entre 20 à 25% d'entreprises, sachant qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement 90% des bailleurs qui ne veulent pas négocier d'annulation ou de report de charges ou d'exonération.
Thierry Grégoire de l'UMI est joint par Adrien Toffolet. Le secteur dont son ensemble représente plus de 8% du PIB en France et emploie environ 2 millions de personnes.
L'académicien Éric Orsenna, les anciens footballeurs Lilian Thuram et Marius Trésor, les acteurs et actrices Pascal Légitimus et Firmin Richard ou encore l'ancienne journaliste Audrey Pulvar, 125 personnalités ont signé une tribune publiée hier par Libération.
Un appel pour sauver France Haut, tous demandent le maintien de la chaîne, le lieu de rendez-vous du patrimoine, des langues, des cultures, des outre-mer, du sport et de la biodiversité. Fiona Mogadam, bonsoir.
Bonsoir.
France Haut pourrait disparaître le 9 août prochain et la décision tarde à arriver.
Oui, dans 10 jours, c'est peut-être un écran noir qui remplacera les programmes habituels de France Ô. Ça fait 2 ans que cette fermeture a été annoncée par la ministre de la Culture de l'époque, Françoise Nyssen, mais depuis, elle n'a pas été actée. Les 50 salariés de la chaîne ne savent donc toujours pas à quoi s'attendre, même si les signaux ne sont pas très encourageants. Début juin, le portail internet Outre-mer la première a été lancé. Il doit permettre de pallier la fermeture potentielle de France Ô. Dans son projet stratégique présenté au CSA pour sa reconduction à la tête de France Télévisions il y a quelques jours, la présidente Delphine Ernotte n'a pas prononcé le nom de France Ô. Elle a dit vouloir ancrer le réflexe outre-mer pour qu'il devienne normalisé, aussi bien dans l'information que les programmes. Roselyne Bachelot va dans le même sens sur France Inter début juillet. Elle a expliqué que l'outre-mer doit participer à l'ensemble de l'audiovisuel et qu'il était jusqu'à présent en quelque sorte confiné. La ministre de la Culture, qui a assuré hier à l'Assemblée nationale qu'une décision sera prise dans les prochains jours avec le Premier ministre. En même temps, il n'y a plus le choix. En attendant, la mobilisation pour sauver François se poursuit. Une pétition toujours en ligne a recueilli jusqu'à présent plus de 67 000 signatures.
Fiona Mogadam. Les États-Unis viennent de décider de retirer près de 12 000 militaires d'Allemagne. Ils veulent en repositionner une partie en Belgique et en Italie, mais aussi en Pologne et dans les pays baltes, à condition de trouver un accord avec ces pays. Le Pentagone parle d'une manœuvre stratégique, mais la version de Donald Trump est plus prosaïque. Le président américain a expliqué que ce retrait de troupes était dû au refus de l'Allemagne de payer plus. Décryptage avec vous, Bertrand Galichet.
Oui, un argument que le président américain répète à l'envi depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, il ajoute sans ambages « On en a marre d'être des pigeons, nous réduisons nos forces parce qu'ils ne paient pas ». La réduction du nombre de soldats américains stationnés en Allemagne était déjà actée. Leur présence permanente pourrait passer d'environ 35 000 à 23 000. Plus de la moitié des 12 000 militaires ainsi disponibles seraient rapatriés. 2 000 autres répartis entre l'Italie et la Belgique, où le quartier général des forces états-uniennes en Europe, actuellement à Stuttgart, seraient transférées. Les effectifs restants pourraient être envoyés dans d'autres pays de l'OTAN, en Pologne et dans les pays baltes notamment. Le Pentagone parle d'un objectif de dissuasion face à la Russie, mais le volume des forces qui seraient redéployées plus à l'est et plus au nord n'est guère significatif. Il ne traduit pas un changement stratégique, même s'il rassure les pays les plus proches de la Russie. De plus, aucun calendrier n'est avancé. Le Pentagone dit que les premiers mouvements pourraient intervenir dans quelques semaines, mais achever une telle opération prendrait des mois, voire des années. Donald Trump lui-même laisse entendre que ce plan pourrait être revu si l'Allemagne met la main au portefeuille. Et à 3 mois du scrutin présidentiel aux États-Unis, eh bien, rien n'est encore figé.
Bertrand Galichet. Le scandale Wirecard en Allemagne. Deux ministres du gouvernement d'Angela Merkel s'expliquent en ce moment, cet après-midi, devant la commission des finances du Bundestag. Olaf Scholz, le ministre social-démocrate des finances, et son homologue de l'économie, le conservateur Peter Altmaier. Les députés veulent savoir pourquoi ils n'ont pas réagi plus tôt pour éviter ce que le gouvernement allemand a appelé un scandale sans équivalent dans le monde de la finance. Le mois dernier, le prestataire financier Wirecard avait avoué qu'1,9 milliard d'euros inscrits dans ses comptes n'existaient pas, ce qui avait provoqué l'effondrement de son titre en bourse et la faillite de cette star de la finance allemande. À Berlin, les précisions de Romain Chevalier.
Dans la ligne de mire des députés, le ministre des Finances allemand, Olaf Scholz, et celui en charge de l'économie, Peter Altmaier. Ils sont en ce moment même toujours en train de répondre aux multiples interrogations de la Commission des Finances du Parlement allemand. Au cours de cette session exceptionnelle, les députés cherchent à établir le degré de responsabilité du ministre des Finances, alors qu'il était au courant depuis 2019 de soupçons de manipulation de bilan de l'entreprise Wirecard. Selon la justice, ce système de fraude aurait commencé dès 2015. Les élus veulent donc savoir pourquoi les ministères et la BaFin, l'autorité de régulation de la finance allemande, n'ont pas agi plus tôt pour éviter ce scandale. L'affaire a éclaté en juin dernier quand Wirecard, membre du prestigieux indice boursier allemand DAX, a avoué que près de 2 milliards d'euros inscrits dans ses comptes n'existaient pas, une somme représentant à l'époque un quart de son bilan. Depuis, l'entreprise a fait faillite et son ex-patron a été incarcéré à 2 reprises. Alors, pour éviter un nouveau désastre, le ministre des Finances allemand a promis une réforme pour renforcer le rôle de la BaFin et mieux encadrer les activités des cabinets d'audit.
Romain Chevalier. Amazon, Apple, Facebook et Google sur le grill du Congrès à Washington. Les patrons des GAFA doivent être interrogés d'ici quelques minutes par la commission judiciaire de la Chambre des représentants qui souhaite se pencher sur leur domination. Pas sûr que cette audition en visioconférence se limite à l'examen des pratiques concurrentielles. Le débat pourrait également porter sur la régulation des contenus par Facebook entre la gauche qui souhaite bannir les contenus qui promeuvent la haine et la désinformation et la droite qui hurle à la censure. Le Hajj, le grand pèlerinage de la Mecque, a démarré aujourd'hui en Arabie Saoudite pour éviter le cluster. Le nombre de pèlerins a été considérablement réduit, quelques milliers à peine contre 2 millions l'an dernier. La météo demain, attention aux grosses chaleurs, notamment dans la moitié sud où l'on peut s'attendre à des pics à 40 degrés. 6 départements en vigilance orange, une chaleur partie pour s'installer. Ciel bleu partout et risque d'orage sur les reliefs. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun.